Bon, il y a ce papier ce matin de Stéphanie Gramont dans la presse au sujet des assurances qui nous sont suggérées fortement par les concessionnaires automobiles. Et on peut comprendre que leur niveau de commission est assez élevé.
Oui, et aller acheter une voiture dans les années 2020, c'est en deux étapes. La première étape, choisir un véhicule. La deuxième étape, passer au bureau des services financiers et autres garanties après-vente. Et on va te dire, une fois que tu as acheté ton véhicule, tu es sûr que tu n'as pas de services financiers. On va te rappeler dans la semaine. On va te rappeler, tu es sûr, là, tu peux encore prendre l'assurance. Donc, tu rentres chez le concessionnaire pour t'acheter une voiture, puis tu sors padé comme Carey Price. Pourquoi? Mais le rapport de l'AMF dit que c'est pas compliqué. La commission sur la police d'assurance chez les concessionnaires est trop élevée en pourcentage. Selon leurs observations, c'est de 2 à 3 fois plus élevé. Dans le fond, on dit que c'est une commission normale, c'est 12 à 15 %. Puis là, on va chercher près de 50 %. Mais dans le fond, quand tu y penses, le produit d'assurance, c'est quelque chose qui devrait se prendre à l'extérieur du concessionnaire. Là, je me ferai pas d'amis ce matin, mais quand tu y penses, le but d'une assurance vie ou une assurance invalidité ou tout type d'assurance, c'est pas de couvrir le paiement de ta voiture, c'est de couvrir tes besoins financiers en totalité. Et c'est pour ça qu'on te fait un plan de vie puis qu'on dit, toi, en assurance vie, tu as besoin de temps pour ta descendance. En assurance invalidité, tu as besoin de temps. Si tu perds ton emploi, tu as besoin de temps. Donc, notre gestion de risque se fait d'un point de vue global, de situation financière globale, pas en fonction de « je m'en vais m'acheter un RAV4 ». Tu sais, dans le fond, c'est un peu bizarre de dire « tu t'inquiètes d'être capable de payer juste ta voiture s'il t'arrive quelque chose ». Non, non, c'est ta maison, tes enfants vont aller à l'école, si tu décèdes, ils ont juste 14 ans, il te manque encore de l'argent pour les rendre à pleine maturité. Et donc, c'est l'inverse que tu dois faire. Tu dois appeler ton courtier en assurance avant d'aller magasiner ta voiture, dire « bon, je prévois aller m'acheter une Mazda 2012 ». Là, il me dit, mais pourquoi tu fais ça? Ben, laisse-moi faire, là. Et là, il me dit, OK, ben voici les assurances que je peux t'offrir pour le prix que je peux t'offrir. Et donc, là, c'est l'inverse. Tu vas t'acheter une voiture neuve, puis après ça, tu dis, hey, avant de partir, Johnny, passe au bureau des assurances pour être sûr que t'es bien correct. Puis là, t'avais un budget de 30 000, tu sors avec 40 000 de produits. J'exagère, mais tu comprends? C'est surprenant. Et il faut vraiment, comme consommateur, apprendre à se poser la question froidement. Si j'achète une maison, je veux-tu une assurance sur ma maison? Non, je veux une assurance sur l'ensemble de mes besoins, mais la voiture, c'est pareil. Et donc, je comprends la patente de valeur à neuf que le concessionnaire peut t'offrir, puis je comprends que tu dis, c'est du clé en main, c'est tout ensemble, mais regarde ça froidement, une assurance est un produit indépendant qui peut s'acheter de façon indépendante.
Oui, tu as bien raison. C'est vrai que tu peux sortir de là. Là tu sais, il n'y a pas juste d'assurance. Là, vous voulez voir ci, vous voulez voir ça.
Les options,
les fameuses options. 5 raisons pour lesquelles la prestation canadienne d'urgence dépasse la popularité de la subvention salariale.
Ouais. Et dans le journal ce matin, on nous fait comme si c'était surprenant. Ben non, il y a 5 raisons. Il y a plusieurs raisons, mais je t'en donne 5. La première, c'est la fameuse charge mentale, la responsabilité administrative. Grâce à la PCU, la prestation canadienne d'urgence, c'est l'employé qui gère ça. L'employeur n'a pas de preuves à faire, l'employeur n'a pas de prouver qu'il a baissé ses revenus, n'a pas de suivi, n'a pas de remplissage de dossier, n'a pas de risque de ne pas être payé. Donc, la PCU pour l'employeur, c'est pratique. Tu dis à ton employé, je te mets dehors temporairement, va chercher la PCU. Deuxième point, la PCU est avantageuse pour les faibles revenus. Parce qu'au début, la PCU, on disait, vous prenez soit la PCU ou la subvention salariale. Puis plus tard, on a vu, non, finalement, tu peux avoir la PCU avec 1000 piastres de revenus, pour avoir la PCU. Donc, quelqu'un qui gagne 24 000 par année peut se retrouver à gagner plus pendant la COVID qu'à l'extérieur du temps de COVID. Et donc, la PCU était beaucoup plus avantageuse. Troisième point, le moment de présentation des programmes. On a dit au début, on ferme le Canada, vous allez tous avoir 2000 $ par mois. Plus tard, on a dit, ah, il va y avoir une subvention salariale, mais il va falloir que tu ailles baisser ton revenu de 30 %. Là, il y a des gens qui ont levé la main. Ils disent, ouais, mais là, ça fonctionne pas avec nous autres parce que 30 % est une start-up. Là, ils ont ajusté. Mais la PCU était déjà commencée chez les employés. Donc, on a dit, par simplicité administrative, on va rester là. Quatrième critère, il y a l'évolution des critères. On martelait que c'était soit la PCU au début, soit la subvention salariale. Alors, les employeurs se sont dit, mettez-vous sur la PCU. Puis là, ils ont pas voulu changer le programme puis se faire dire par leurs employés qui trichaient puis d'avoir les deux programmes en même temps. Finalement, le gouvernement revient sur ses pas, puis là, il dit, ben là, attends une minute, là. Finalement, si l'employé demande la PCU, l'employeur peut demander la subvention salariale. Si l'employé ne gagne pas plus que tant sur la PCU, hey, là, ça devient, Paul, un casse-tête. Et finalement, les liquidités puis les flux monétaires, on s'entend-tu que t'es employeur? T'as 2 choix. Ton employé a son argent en restant chez lui, peu importe le nombre d'heures qu'il fait tant que c'est en bas de 1000 $, donc de 0 à 1000 $. Ou ben non, Toi, faut que tu payes tes employés, que tu fasses les démarches pour te faire rembourser par le gouvernement, que tu remplisses des rapports. Donc, tu prends le risque de liquidité. En plus, le gouvernement te dit « Hey, paye donc 25% de la rémunération de ton employé quand même. » Alors que sur la PCU, si ton employé est au salaire minimum, c'est à peu près 100% de sa paye. Alors, dans le fond, le gouvernement semble surpris dans son budget que la PCU pogne plus, mais il s'est arrangé pour que la PCU soit plus intéressante et donc, volontairement ou pas, c'est la PCU qui l'emporte. C'est presque un concours de 100 mètres.
Tu sais qu'hier, on a raconté l'histoire de cet ado de 15 ans qui s'est fait voler son identité.
Oui.
Puis ça permet à quelqu'un d'ouvrir un compte là, à l'Agence de revenus du Canada puis d'obtenir 6 000 trois paiements qui ont été faits.
Et... Bon, ça, c'est la sixième raison.
Oui. Mais écoute, il y en a plus qu'on pense de cas comme ça. On s'en est déjà parlé, pas toujours à l'antenne, toi et moi, là. Mm-hmm. Mais hier, j'ai reçu encore quelqu'un qui, hier soir, a reçu une correspondance de l'Agence de revenus en disant « Voici, vous avez ouvert un compte. La personne travaille. C'est une infirmière. » Elle dit « Moi, j'ai jamais ouvert de compte. Je sais pas comment ça se fait. Puis là, son identité a été volée. Et là, les gens de l'agence, certains nous disent qu'ils sont sur des opérations parce que même les fraudeurs, ça a l'air qu'ils sont pas toujours de gros champions, là, tu sais. Si tu veux ouvrir, mettons, t'as l'identité de quelqu'un à Candiac, puis tu veux ouvrir ton compte à Toronto. Peut-être pas l'idée du siècle, là.
Mais là, il y a quelqu'un qui m'a même écrit cette semaine, qui m'a dit « Pierre-Yves, attends, j'ai une question théorique pour toi. » Il dit « Mettons que j'ai pas droit à la PCU, mais je me la demande pareil. » Dans le fond, si le gouvernement ne met pas de pénalité puis pas d'intérêt tant qu'on rembourse, je vais me financer 6 mois avec la PCU gratuite, m'en remplir mon REER, puis je rembourserai en fin d'année. Et là, je me suis dit, attends une minute, là. Lui, c'est une personne qui se dit, techniquement, je suis un fraudeur, mais pratiquement, il n'y a aucune conséquence à l'être. Et donc, c'est du financement gratuit, pourquoi je ne l'utiliserais pas? Puis je me suis dit, ben, d'un point de vue éthique, c'est douteux, mais d'un point de vue technique, le gouvernement, en ne pénalisant pas les gens qui fraudent involontairement ou volontairement, se retrouve à quoi? À encourager les gens à le faire.
Bonne observation, monsieur. Bon. Merci. Bonne journée. À demain, 7h23.